Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la librairie Olivieri et bienvenue tout particulièrement à ce débat sur la culture. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir et en compagnie de nos trois invités. Rassurez-vous, il y en a un des trois qui était pris ailleurs. Il nous a promis, il est en route, il s'en vient, il sera là. Donc, nos trois panélistes sont là pour parler de culture ce soir. Alors, je me présente, mon nom est André Lavoie, je suis critique de cinéma au journal Le Devoir et à l'agence de presse Mediafilm, et bien sûr aussi un amoureux de culture depuis ma tendre enfance, et merci maman, merci papa. Et j'étais très heureux lorsqu'on m'a proposé d'animer ce débat, cette soirée, en compagnie de nos invités. Avant de vous les présenter, je veux seulement vous rappeler un peu le déroulement du débat, comment ça va se passer. C'est très simple. Nos trois invités, d'abord, vont rapidement exposer leur vision de la culture. Et après cela, ils seront invités à échanger entre eux pour nourrir votre réflexion sur la culture. Bonjour, Tristan.
Bonjour,
Désolé, un petit retard. Par la suite, lorsque ils vous auront inspiré et illuminé de leur savoir, de leur pratique et de leur réflexion sur la culture, vous êtes bien sûr invités à faire vos commentaires, poser des questions et à échanger avec nos trois invités. Je vais vous le rappeler plus tard lorsque ça sera la question de lorsqu'il sera question des échanges entre vous et les panélistes. Je vais vous demander de vous placer, si possible, devant le micro, puisque les savants propos que nous allons tenir ce soir sont enregistrés pour Radio Pirate, c'est bien ça. Et donc, pour plus de clarté pour les auditeurs, ça serait mieux si vous pouviez poser vos questions et faire vos commentaires au micro. Mais rassurez-vous, mon rôle aussi, c'est de vous guider, de vous diriger. Et c'est ce que je vais faire avec nos trois panélistes. Alors, justement, ces trois panélistes, je vous les présente. Alors, à l'extrémité, celui qui est arrivé en retard pour se faire remarquer. C'est une blague, Tristan. Tristan Malavoie-Racine, auteur, musicien, chroniqueur littéraire que vous pouvez lire à voir et que vous pouvez voir et entendre à voir.ca, à la télévision, à Télé-Québec. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Celui qui nous a fourni le merveilleux prétexte pour être ensemble ce soir, Simon Brault, l'auteur de Le Facteur C. C, non pas pour collusion, corruption et autres mots qui commencent en C, mais bien C pour culture. L'avenir passe par la culture. Simon est également directeur de l'École nationale de théâtre du Canada. Il est vice-président du Conseil des arts du Canada et il est aussi président et fondateur de l'organisme Culture Montréal. Mon troisième invité, et non le moindre, Frédéric Gravel, interprète, chorégraphe et aussi cofondateur de la compagnie La Deuxième Porte à Gauche. C'est bien ça? Merci, Frédéric. Alors, je vais d'abord demander à mes trois panélistes, chacun, pendant quelques minutes, de nous exposer leur vision du thème de ce soir. La culture, de quoi parle-t-on? C'est un thème très vaste, mais un thème riche, je crois, en réflexion, et pas nécessairement en réflexion, mais ceux peut-être qui ont eu le bonheur de lire le livre de Simon Brault, pardon, aussi un appel à la mobilisation, c'est pas seulement de agir. Je vais demander à chacun de mes trois invités de leur réflexion sur ce sujet. D'abord, je leur ai demandé, et Tristan, sois bien, parce que j'ai pas eu le temps de te le demander. Alors, j'ai demandé aussi à mes trois invités, d'abord et avant tout, de nous livrer un souvenir d'enfance personnelle lié à une expérience culturelle qui les a inspirés, qui les ont stimulés, qui ont ouvert leur imaginaire et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les trois personnes que vous avez devant vous, et j'oserais dire moi-même, on a décidé de s'investir dans le milieu culturel. En ce qui me concerne, moi, ça oscille entre Le malade imaginaire avec Pierrette Robitaille dans le rôle de Toinette et ma première sortie au cinéma qui était La mélodie du bonheur avec mes parents. Alors, je vais commencer avec Frédéric.
D'accord. Bon,
je vais aller chercher ça loin. J'ai pas un souvenir, peut-être un souvenir en particulier, même si maintenant je travaille plus en danse, en mise en scène, en musique, mon premier souvenir culturel serait relié aux mots. Je me rappelle, mes parents m'achetaient un truc quand j'étais bon, quand j'avais. Je veux dire toute ma vie, j'ai 30 ans, là. Donc, quand je suis de la génération, que quand j'avais 6 ou 7 ans, peut-être un peu avant même 5 ans, on achetait. Il y avait une espèce de truc hebdomadaire ou mensuel qui s'appelait Raconte-moi des histoires. C'était des cassettes. Peut-être qu'on a acheté ça à ses enfants. Écoute, parce que je suis à peu près de la génération du fils de Simon. Et dans le fond, l'histoire se racontait par la cassette, donc j'avais pas besoin de savoir lire au début, mais bien entendu, rapidement, j'étais à l'âge où j'ai appris à lire, et je me suis mis à lire moi-même. Mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard que j'avais été, comme ça, dans le fond, introduit à plein d'auteurs assez... mais assez de toutes sortes d'auteurs, assez classiques même finalement. Puis c'est plus tard, quand moi je lisais beaucoup, je lisais tout ce qu'il y avait chez moi. Puis quand je me suis rendu plus à 16-17 ans, je me suis rendu compte que je connaissais déjà Dickens, que je connaissais déjà même... je me suis rendu compte que je connaissais Camus. J'avais lu un truc de Camus peut-être à 13 ans, mais je savais pas que c'était de la culture élevée, ça, Camus. J'ai lu un roman. Puis... Donc je me suis rendu compte plus tard que j'avais lu plein de trucs, mais je m'étais jamais rendu compte que c'était quelque chose de sérieux. Pour moi, c'était vraiment juste du divertissement. Et donc, voilà, ce serait mon souvenir d'introduction, sans m'en rendre compte, dans un univers culturel.
Mais allons-y avec Simon, et on reviendra.
On va trop faire de bruit avec le fil. En fait, moi, je suis un peu forcé, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon père était très... mon père était un professeur de microbiologie et qui était avant un technicien de laboratoire. Et le reste de son existence était vraiment passé à essayer d'être un artiste, je sais pas, de la stature de Picasso. Donc, il peignait, il faisait de la sculpture, de la poésie et tout ça. Donc, ça a toujours été très présent à la maison, mais je détestais généralement le fait que ça occupe autant de place dans la vie quotidienne. Et je pense que ma première expérience culturelle, en tout cas celle qui m'a le plus marqué, ça a été aussi autour des mots. Ça a été, je pense, à l'âge de peut-être 4-5 ans, d'avoir réussi à dire quelque chose ou à imaginer quelque chose qui était vraiment, je pense, poétique. En tout cas, je me souviens très bien que j'avais une réflexion sur la rue, en tout cas sur la rue où je vivais, sur la rue de Gaspé, puis que les adultes autour de moi trouvaient que c'était profond, que c'était... En tout cas, ça les émerveillait. J'ai réalisé, quand j'avais 4-5 ans, qu'on pouvait dire des choses... et que ça pouvait émerveiller des gens. Et je pense que c'est ça, pour moi, le pouvoir. Puis évidemment, par la suite, bon, on va au théâtre, la roulotte et tout ça, mais je pense que c'est cette fascination-là pour le pouvoir que les mots peuvent avoir sur les gens autour de moi. Et je pense que c'est vers 4-5 ans.
Merci, Simon.
C'est amusant qu'on commence la soirée par cette question-là, parce qu'en entrant dans la librairie, tout à l'heure, je me suis posé la question, depuis quand existe la librairie Olivieri? Est-ce que quelqu'un est au courant?
Oui.
25 ans, moi j'en ai 10 de plus. Et auparavant, est-ce qu'il n'y avait pas dans le coin ici une autre librairie?
C'est un renombré
avant. Je vais vous dire pourquoi je me suis posé la question. Et quand j'étais petit, moi j'ai grandi en Estrie, mais ma grand-mère habitait dans Snowdon, tout près d'ici, et elle me gardait très très souvent. Et chaque fois qu'elle me gardait, souvent je passais des 2-3 jours avec elle. Chaque fois qu'elle me gardait, on venait donc dans le Renaud-Bré qui existait ici auparavant. Ça doit être ça. Parce que je me souviens que c'était dans le coin. J'ai des images du coin de rue ici. Et puis, elle m'achetait un livre. C'est tout simple. Puis je me souviens qu'au départ, bon, quand on a 6 ans, 7 ans, on a plus envie de recevoir un ballon ou de recevoir un jeu de fléchettes. Et alors, au début, bon, je la suivais un peu pour lui faire plaisir, mais c'est devenu un moment important entre nous. Puis pendant plusieurs années, ça a duré ça. On allait, la première journée où je me faisais garder par elle, on allait à la librairie, elle m'achetait un livre, et puis après, on se calait dans son grand lit, et puis on en lisait un bon bout. Donc, ça a commencé par des Martines, des Tintins, tout ça, puis c'est allé vers des livres un petit peu plus, un peu plus sérieux, des livres jeunesse, mais un peu plus consistants. Et je dirais que le sérieux que j'accorde à la culture, sérieux au sens je dirais pas jusqu'à sacré, mais l'importance que j'accorde à la culture et au moment où on est en communion avec l'écriture, la culture, me vient certainement en partie de là. Donc, c'est un souvenir tout simple. Voici.
Merci, Tristan. Alors, je vais reprendre, je vais demander à Frédéric de reprendre le micro pour cette fois-ci y aller peut-être quelque chose de plus présent, de plus actuel, c'est-à-dire la vision de la culture de nos trois invités. De quoi on parle lorsqu'on parle de culture, son importance, quelle est l'importance réelle ou relative que l'on accorde à la culture dans notre société, quelle place lui accorde-t-on vraiment? Et aussi, ben, c'est sûr, de quelle culture parle-t-on? Et aussi par rapport, évidemment, à notre bagage culturel, mais également peut-être aussi, bon, à nos expériences, mais également à l'âge que l'on a, à la génération à laquelle on appartient, à notre parcours personnel. Je sais pas, ça fait la même chose d'être dans le milieu de la danse, du théâtre ou de la littérature. Alors, maintenant, chacun des panélistes sera invité à partir un peu la discussion brièvement pour que ensuite ils puissent échanger entre eux, mais que ensemble d'abord on mette la table sur ce vaste sujet. Alors Frédéric, à toi la parole.
Okay. Je vais essayer d'éviter deux écueils, c'est-à-dire d'être trop vaste et de lâcher trop de bombes tout de suite en partant de sujets dangereux.
C'est pour ça qu'on m'a mis au bout pour sauver au cas où.
Non, mais ça devrait bien se passer. Je vais parler un peu justement qu'est-ce qu'on parle par culture. Je vais pas répondre à la question, je vais plutôt poser le problème. La culture, dans le fond, je vais faire appel à un philosophe que j'aime bien, là, qui s'appelle Alain Finkielkraut. Puis dans un de ses livres que je lisais dernièrement, je sais pas si je l'ai lu au complet, là, je vais pas avoir l'air si cultivé, là, j'ai pas lu tout Finkielkraut, mais peut-être la moitié du livre, j'ai pas fini. Il disait un peu, c'est dans La défaite de la pensée, qui est un livre intéressant, puis il dit justement que la culture, pour lui, c'est la vie avec l'esprit. C'est-à-dire que, pour lui, la définition de culture, la vie avec l'esprit, donc on est déjà, ça peut déjà être une définition qui porte à conflit, parce que ça peut déjà avoir l'air d'une idée élevée de la culture, c'est-à-dire que ça serait la culture des philosophes ou la culture des gens qui se donnent le temps de réfléchir, se donnent le temps d'avoir un esprit ouvert. Mais c'est déjà intéressant de poser cette espèce de culture avec l'esprit comme étant conflictuel déjà, comme une définition de culture. Ensuite, je vais encore parler de Finkielkraut parce que ça m'a fait penser à un autre truc qu'il disait justement dans un autre livre qui était, je me rappelle pas, je vais vous le dire plus tard, qui disait que quand on parle de culture, on a souvent tendance à d'abord essayer de passer sa culture. Donc, il y a une différence entre la culture et sa culture. Donc, ma culture comme étant un Québécois francophone. Et ça, c'est un autre truc conflictuel parce que ça peut porter à des hiérarchisations de ce qui est une culture plus ou moins valable. Et en même temps, ça peut être une culture qui est rapidement appropriée par les pouvoirs politiques, c'est-à-dire une culture nationale, une culture transnationale ou en tout cas une culture... voilà, ça peut être un autre problème. En même temps, c'est encore le mot culture. Sinon,
est-ce que le mot culture te dérangerait, Frédéric?
Là, j'en viens à la prochaine affaire que je vais dire. Le prochain conflit de culture, c'est justement des fois on en vient à vouloir pas opposer, mais à vouloir définir art et culture comme étant deux choses un peu différentes, parce que dans le fond, la culture veut tellement dire plein de choses, parce qu'on dit notre culture, ça, quand j'ai dit la culture comme étant aussi notre culture, ça peut inclure notre habitude de qu'est-ce qu'on met sur nos rôtis le matin, jusqu'à ce qu'on regarde à la télévision, et jusqu'à justement quelles sont nos préférences culturelles quand on va regarder un spectacle. Et à partir de là, c'est ce qui nous donne des fois l'envie de définir le mot art à l'extérieur du mot culture, ou en opposition, ou enfin de mettre une séparation. Finalement, j'ai pas la réponse à ça, mais je veux juste dire, finalement, il y a aucune bonne réponse, parce qu'on pourrait voir l'art comme étant quelque chose de complètement ouvert à plein de définitions, tout comme la culture. Là, je vais passer à un autre truc, parce que là, je vais juste lancer des pistes. Souvent, la culture, c'est quelque chose, on parlait de l'importance qu'on donne à la culture. Je pense que des fois, on met culture avec un grand C, puis on pense que la culture, c'est toujours une espèce de de moments de la semaine où il faut penser à notre culture. Puis là, on essaie de lire un livre sérieux ou quoi que ce soit, mais on oublie que la culture, c'est comme sans arrêt, on est toujours influent. Notre culture évolue. Et dans le fond, même les... je sais pas c'est quoi le mot français pour un jingle à la radio ou à la télévision,
mélodie.
Une mélodie associée à telle marque de pâte ou à tel nettoyant. Ben c'est notre, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est aussi notre culture parce qu'on se rend compte que ça nous rentre à l'intérieur. Puis des fois, on a ça dans la tête. Donc nécessairement, ça nous marque comme artiste. Fait que ça se peut que si je fais une composition un jour musicale, j'ai un intervalle de notes qui me vient vraiment de Monsieur Net. Mais j'ai aucune idée, mais voici, ma culture est aussi celle de Monsieur Net. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Quand on essaie de mettre l'importance à la culture, on a tendance à oublier à quel point notre culture est toujours en formation et puis qu'on a besoin de peut-être travailler une espèce d'attention ou une espèce d'ouverture d'esprit envers ça ou juste être allumé envers nos fréquentations culturelles de toutes sortes. Pas parce que c'est dangereux, mais si on n'est pas allumé, dans le fond, on se fait former de toutes nos rencontres sans vraiment en prendre compte. Voilà, ce serait à peu près ça.
Merci Frédéric pour ces pistes. Non, ça va. On n'est pas au gala de la disque, là. Je ne ferai pas tyrannique. Simon.
Évidemment, bon, en tout cas, dans le livre, je l'explique. Une des choses que j'affirme, c'est que je ne suis pas trop intéressé à la définition de ce que c'est la culture. Et la raison pour laquelle je ne suis pas trop intéressé à ça, c'est que d'abord, c'est une notion qui est extrêmement mouvante. C'est une notion qui a été définie par des centaines, sinon même des milliers d'auteurs, de philosophes, d'ethnologues. Et il y a énormément de définitions de ce qu'est la culture. Et la raison pour laquelle j'ai une espèce d'allergie à vouloir absolument trouver une définition parfaite, c'est que il y a quelques années, au moment où on créait les Journées de la culture, il y avait beaucoup de gens qui disaient on peut pas faire ça parce que il faut s'entendre sur une définition de la culture. Et j'ai souvent entendu, d'ailleurs, il y a peut-être une 15-20 ans, plein de gens très bien intentionnés, formidables, très articulés, qui disaient « on ne peut pas s'occuper de défendre la culture parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur ce que ça veut dire ». Et dans le livre, il y a un moment donné, je vais me citer donc, disant « nous comprenions, au moment où on parlait de défendre la culture, on disait « nous comprenons bien que le mot « culture » même en évitant de lui accoler des qualificatifs comme classique, savante ou grande culture, ça renvoie immanquablement aux arts et aux œuvres moins populaires. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que finalement, le jour où on pense qu'on a besoin de défendre la culture, on sait que c'est pas la défense de la sorte de confiture qu'on mange dont on parle. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a quelque chose qui est menacé. Et cette chose menacée est forcément ce qu'il y a de plus fragile. Tantôt, c'est la langue, tantôt, c'est un morceau de civilisation, tantôt, c'est un morceau de patrimoine, tantôt, c'est la poésie, tantôt, c'est la diversité des expressions culturelles. Et cette chose ou ces choses fragiles dont on sent qu'il faut absolument assurer la survie, dont on sent qu'il faut absolument préserver l'intégrité, pour moi, c'est ça la culture. La culture, c'est quelque chose qui est toujours en voie d'extinction, qui est quelque chose qui est toujours en voie. Et tout ce qu'on considère comme étant triomphant, la culture triomphante, en règle générale, je trouve qu'il faut qu'on s'en méfie. En règle générale, c'est le commerce. En règle générale, c'est un prétexte culturel. Mais la culture, c'est quelque chose... Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui est en souffrance, mais c'est quelque chose qui est toujours menacé. Et dans le livre, j'argumente beaucoup, beaucoup. En fait, quand je parle du facteur C, bon, on a dit C pour culture, mais au fond, on aurait pu dire C pour civilisation. Je suis quelqu'un qui pense que la culture est fondamentalement un facteur de civilisation et qu'à chaque fois que la culture recule ou avance, en tout cas la culture à laquelle on tient, celle qui est menacée, c'est généralement la civilisation qui avance ou qui recule.
Je me permettrais peut-être d'ajouter, Simon, c'est aussi pour peut-être cohésion, communauté, citoyen. On y reviendra. Tristan.
André Malraux a dit un jour quelque chose comme « La culture, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas qu'un accident de l'univers ». C'est une phrase que je trouve très, très belle, puis à laquelle j'ai envie d'ajouter Oui, et puis si jamais l'homme et la femme ne sont que des accidents de l'univers, ce qui est loin d'être exclu, ben au moins, la culture en fait de beaux accidents. Des accidents qui réfléchissent, des accidents qui rêvent, des accidents qui se questionnent sur eux-mêmes. Et moi, en tout cas, dans mon rapport à la culture, à la fois comme observateur, je suis professionnellement un observateur de la culture en tant que chroniqueur au Voir. J'ai mes petits projets, mes petits terreaux de création personnelle aussi du côté de la poésie, de la musique. C'est un peu comme ça que je le vois. Je demande à la culture de soit me dire que je ne suis pas qu'un accident de l'univers, soit me dire que si j'en suis un, j'en suis un beau. Et j'aime par ailleurs l'idée que le C soit le C de civilisation. Il y a quelques mois, je suis allé au Mexique, je suis allé visiter le site de Chichen Itza, que plusieurs, je présume, ici ont déjà visité, site maya absolument magnifique. Puis je me souviens qu'étant là-bas, je me suis dit, mais tiens, ce qui reste longtemps après qu'une civilisation se soit éteinte, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas d'abord la culture? Oui, il y a toutes sortes d'histoires sur les guerres qui ont eu lieu, les épidémies et tout, mais ce qu'on voit là tout de suite, c'est l'architecture, c'est la sculpture. Les arts visuels, là-bas, il y a des genres de bas-reliefs là, dans leur construction. Les Mayas de Chichen Itza étaient aussi fascinés par l'acoustique. Alors, il y a des phénomènes acoustiques qu'on a du mal à expliquer. Par exemple, quand on est devant la grande pyramide, la pyramide principale de Chichen Itza, quand on se situe à un point précis, qu'on tape dans nos mains, le clap va résonner dans une pièce qui est au sommet de la pyramide et puis va évoquer le cri d'un oiseau, un genre de perroquet qu'on retrouve beaucoup dans cette jungle-là. Tout ça pour vous dire qu'ils étaient très, très sensibles à ça. Et puis, ce qui reste d'abord, donc, pour moi, c'est le legs culturel. Quand une civilisation disparaît ou se mue en autre chose. Évidemment, ça m'amène à réfléchir à ce que ma civilisation à moi va laisser, puis à commencer par ce que ma société à moi va laisser. Me questionner, j'aimerais qu'on le fasse ce soir, sur ce que sera l'état de la langue française et puis de la culture québécoise dans 50 et dans 100 ans, pas dans 10 ans. Puis ça, là-dessus, l'essai de Simon Brault, qui m'a intéressé beaucoup, beaucoup, me paraît évacuer un petit peu vite la notion de l'identité québécoise, ou en tout cas la question nationale. Il y a là une position rhétorique intéressante, je trouve, parce que ça place au centre de la réflexion la ville, puis je sais qu'on va y revenir beaucoup ce soir, c'est hyper intéressant, mais je trouve pas qu'on puisse évacuer aussi vite la notion de l'importance d'un État québécois, puis moi je fais partie de ceux pour qui l'accession politique du Québec à sa souveraineté serait garante beaucoup mieux que tout le reste d'une sauvegarde à long terme de la langue française et de notre culture.
Donc la culture comme à la fois comme moyen de s'exprimer, moyen de se définir individuellement, mais aussi collectivement. Mais quand on parle de collectivement, on parle de quoi? On parle de la ville, du quartier, de la société québécoise, de la société canadienne. J'ai l'impression que la culture, de quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on dans quel cadre? Dans quelle frontière? Est-ce que ça se transforme d'une frontière à l'autre? Est-ce que la culture québécoise, on a toujours dit qu'on vivait au Québec dans une société distincte, donc distincte par rapport à le reste de l'espace canadien, donc ça veut dire que c'est pas la même culture? On jette un pavé dans la mare par rapport au nationalisme? Je sais pas. Qui veut se lancer?
En fait, je pense que sur cette question-là, il y a trois choses. Un, il y a la question du rapport de la culture à l'identité, ou plutôt de l'identité à la culture. Je pense que l'identité est un phénomène d'abord extrêmement complexe. Tous, autant que nous sommes, transportons différentes identités. On a des identités linguistiques, nationales, d'orientation sexuelle, d'appartenance à tel ou tel quartier, à telle ou telle croyance, à telle ou telle religieuse, etc. Et la culture est forcément aussi teintée par toutes ces identités-là, et l'acceptation, le refus ou la valorisation de ces identités, ou les exclusions de ces identités-là. Les cultures qui sont contraignantes sont souvent celles qui rejettent ou qui interdisent qu'on affiche telle ou telle identité. Et je pense que moi, je suis fasciné par les temps qui courent, par les identités urbaines, parce que je trouve que les identités urbaines héritent moins des dernières centaines d'années où on a beaucoup, beaucoup affirmé les identités nationales avec toutes sortes de dérives. Et je pense qu'il y a une crise des identités nationales qui est causée pas parce que des gens comme moi pensent que c'est moins intéressant, mais parce que les migrations qui ont été forcées par la mondialisation ont fait que tout le monde s'est déplacé, que les gens se sont regroupés. Je veux dire, même au Québec, oui, vive l'indépendance, mais il reste quand même que ça fait pas très longtemps, par exemple, que les gays qui vivaient dans les régions sont venus à Montréal parce qu'ils étaient capables de vivre leur identité à Montréal, puis ils n'auraient pas été capables de l'assumer aussi fortement dans plusieurs des régions du Québec, parce que la ville propose une possibilité de superposition des identités, d'acceptation des identités et d'indifférence aux identités qui est extraordinaire. Alors moi, je pense que les villes, en tout cas sur la question de l'identité, je trouve que les villes sont des creusets à l'heure actuelle de possibilités de configuration d'identité qui sont fascinantes et que les villes ont des cultures. Et je pense que Montréal, présentement, et je l'affirme, Montréal a une culture extrêmement forte, extrêmement précise, qui s'insère dans la culture québécoise, qui s'insère dans plein, plein d'autres cultures. Moi, c'est une chose qui m'intéresse. Et je veux juste dire que sur la question du français et du projet d'avoir un État québécois, moi, je pense que le projet d'avoir un État québécois va survivre probablement encore pendant très longtemps. Je suis quelqu'un qui est absolument convaincu que ça n'est ni la structure ni les politiciens au pouvoir qui vont sauver la culture ou sauver le français. Je suis convaincu de ça. Et quand je regarde la situation dans laquelle on est au Québec, quand je regarde les politiciens qu'on a ou au Canada ou en France ou ailleurs, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus interchangeables, les politiciens, que nos dirigeants sont de moins en moins fiables et que la vraie vie... j'ai beaucoup plus confiance aux intellectuels, j'ai beaucoup plus confiance aux sages, j'ai beaucoup plus confiance aux citoyens pour prendre la défense des choses auxquelles ils tiennent à cœur qu'à des projets politiques, étatiques, etc. C'est ma position.
Et
c'est pas une position anti-nationaliste, c'est une position.
Mais dirait-on aussi, Simon, que nos politiciens, nos dirigeants sont de moins en moins cultivés?
Ben, je dirais que les politiciens ce qui est intéressant, c'est que les politiciens parlent plus de culture que jamais. Ils ont réalisé que la culture est un puissant moyen de développement économique, de ralliement, d'affirmation. Et il y a là-dedans quelque chose qui est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un dialogue avec les politiciens qu'on n'avait pas autrefois quand ils voulaient juste nous parler de construire des routes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les politiciens parlent très ouvertement de la culture, sont toujours prêts à faire des sommets là-dessus, mais maintenant, ils discutent de la construction des routes derrière des portes closes, puis ils ne veulent pas avoir de sommets là-dessus. Ils ne veulent pas qu'on s'en occupe. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant.
Peut-être un truc à revenir sur l'idée à quel point les politiciens tout d'un coup, presque tout d'un coup, je dirais, je ne suis pas si vieux, mais on dirait que j'ai connu l'avant et l'après de l'intérêt à la culture. L'écueil qui est là, c'est que dans une société qui est comme la nôtre, qui est une société de spectacle, c'est que on finisse par contempler l'espèce de spectacle de la culture. Et puis le spectacle de la culture, c'est quelque chose qui est super à la mode. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire des livres qui poussent cette idée de qu'est-ce qu'on veut dire par culture, mais qu'est-ce qu'on veut dire par défendre la culture. Parce que dans le fond, l'idée du spectacle de la culture, je branche des noms d'auteurs. Là, ça vous tente de lire des bons livres. Je viens de finir ma maîtrise, moi, fait que je suis super branché sur plein de lectures.
Voyez-vous les notes en bas de page apparaître.
Ouais, c'est ça. C'est Michael Lachance, professeur d'esthétique à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui développe beaucoup sur l'idée du spectacle de la culture. La culture qui serait rien d'autre qu'une grande, immense vitrine devant laquelle on serait tous bouche bée, béa d'admiration, mais dans le fond, il n'y aurait rien derrière cette espèce de vitrine-là. Ça serait je ne vais pas faire d'exemple, là, mais une représentation de ce que c'est que l'idée que la culture, donc de gros spectacles qui font beaucoup de bruit, mais avec un peu toujours la même idée derrière. Je ne vais pas faire, dans le fond... on sait qu'est-ce que c'est qu'un spectacle, on sait ce que c'est que quelque chose qui fait du bruit. Et c'est pas... C'est, habituellement pas signe de quelque chose qui est en santé, même si ça fait plus de bruit. Et dans le fond, ça serait un petit peu ça l'idée. À partir de là, la position justement citoyenne qui est pas juste, qui doit être prise par les artistes, c'est d'être toujours actif dans ce que c'est que la culture. La culture, c'est quelque chose qui est complètement, complètement toujours en mouvement. Pas nécessairement vers un mouvement de progression vers une nouvelle esthétique, mais vraiment quelque chose qui est en mouvement, qu'on ne peut pas jamais s'asseoir. Dans la minute qu'on pense qu'on a une idée de ce que c'est, il faut y aller. Donc, et ça peut nous éviter peut-être d'entrer dans le spectacle de la culture, parce que souvent, le mot culture, quand je me suis procuré le livre, c'était vraiment... J'ai voulu être rassuré d'abord. J'ai dit, bon, est-ce qu'on parle de le spectacle, de la culture, puis la culture, à quel point c'est important, comme les politiciens en parlent. Dans le fond, ils disent... J'ai souvent entendu que c'est important, mais j'ai entendu rien d'autre de la bouche d'un politicien. Voilà. Mm-hmm.
Juste pour prolonger sur la réflexion de Frédéric, et dans le questionnement du professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a un essai qui a déjà été publié depuis déjà plus de 20 ans, qui s'appelle « L'ère du vide » de Gilles Lipovetsky, qui prolonge cette idée de vacuité, de spectaculaire et de clinquant et de postmodernisme qui, à l'époque, c'est dans la droite ligne de ces questionnements-là. Tristan?
Sur la question des villes qui cherchent à se donner une signature culturelle, c'est vraiment un phénomène mondial. Ça, je trouve ça vraiment important d'en parler. C'est au cœur du livre de Simon Brault, d'ailleurs. Il y a là quelque chose de frappant. Moi, je pense que la première fois que j'ai réalisé ça, c'est quand il y a quelques années, je me suis retrouvé à Las Vegas pour le boulot. J'allais couvrir un show du Cirque du Soleil, je pense. Et puis, puis là, j'ai quand même réalisé que Las Vegas avait changé par rapport aux images que j'en avais vues. J'y suis allé deux, trois fois, mais cette fois-là était la première. Et puis, je me suis rendu compte que Las Vegas était vraiment plus seulement qu'un endroit où on allait jouer, dépenser des sous, boire un coup, puis s'envoyer en l'air, que Las Vegas cherchait à se donner un vernis culturel. J'en parle parce que c'est peut-être un indice extrême de ce qu'on voit un peu partout. Je suis tombé à un moment donné entre deux gros casinos, le Caesars Palace peut-être et puis un autre, sur une exposition. Il y avait une partie de la collection de le Grand Musée de Saint-Pétersbourg, c'est l'Ermitage. L'Ermitage, c'est ça, qui avait prêté une bonne partie de ses œuvres à un casino de Vegas. Alors ça, vraiment, ça m'a donné un choc. L'Ermitage, Saint-Pétersbourg, présente. Et là, un peu, pardon?
En deux machines.
Non, il y avait quand même une salle. Mais justement, ce qui est troublant, c'est que les choses sont bien faites. Il y a des salles magnifiques où les œuvres sont bien présentées. Mais c'est bien en soi, mais je veux dire, c'est un indice du fait que les villes, même les villes dédiées au divertissement d'abord, cherchent à se donner un vernis culturel. Puis partout dans le monde, dans une moindre mesure, quand même, on le remarque. Il y a la notion de branding culturel qui devient extrêmement importante. Les villes, et puis Montréal en fait partie, cherchent à se doter d'une personnalité culturelle.
Une signature.
Évidemment, une signature. Puis ça pose toute la question qu'aborde beaucoup Simon Brault de la récupération possible, politique et touristique, qui peut être faite de notre création. Moi, j'aimerais assez l'entendre, Simon Brault, sur les mécanismes possibles. Je suis certain qu'il va nous parler de plateformes citoyennes pour faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de dérive en la matière.
Je me permets de poser une question. Oui, tout à fait, Tristan.
Alors, moi, je pense que c'est effectivement, il y a un enjeu là, qui est extrêmement important, parce que qui dit, puis c'est vrai, ce que tu dis est complètement vrai, en fait, ça fait 10 ans à peu près, c'est très récent, c'est vraiment au tournant des années 2000 qu'on a assisté à cette frénésie des villes, et pas juste des politiciens municipaux, mais des milieux d'affaires et même des milieux culturels des grandes villes, une frénésie pour essayer de se démarquer, pour essayer de s'affirmer, pour essayer de, en fait, d'utiliser un peu la culture comme un bouclier, comme un étendard, comme une façon de dire « voici, on existe, on est intéressant et venez investir, venez visiter, donnez-nous de l'importance ». Et il y avait là-dedans quelque chose d'extrêmement rassurant pour le milieu culturel, parce que les gens du milieu culturel qui crient dans le désert depuis des années se disent « enfin, on s'intéresse à nous ». Mais en fait, c'est plus un intérêt, c'est presque un…
Opportuniste
En fait, il y a une grande notion d'opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est un instrument, puis on s'en est rendu compte, et c'est correct qu'on s'en soit rendu compte, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'à la fin de la journée, on peut avoir à dire et à raconter pour faire en sorte qu'une ville soit intéressante. C'est plus les commerces qui sont partout pareils dans le monde, c'est plus le fait qu'on a des universités, qu'on fabrique des fusées, qu'on a perdu nos industries. En fait, c'est l'histoire qu'on est capable de raconter, c'est notre création, c'est notre originalité. Et je pense que là où il y a, à la réponse que pose Tristan, je pense que la question fondamentale, c'est qu'il, ma réponse fondamentale, c'est qu'il ne faut pas laisser la définition identitaire des villes ou la définition de leur rapport à la culture entre les mains des spécialistes, que ce soit des spécialistes du branding, que ce soit des spécialistes de la production culturelle, que ce soit des spécialistes de l'image, de la publicité, que ce soit des politiciens. Je pense que les spécialistes d'un domaine ou d'un autre vont utiliser la culture pour se développer une business, pour se développer une raison d'être, pour s'auto-justifier. Je pense qu'il faut absolument qu'on réussisse à faire en sorte que la discussion sur la culture et sur l'image qu'on veut projeter de la ville soit une discussion généraliste, soit une discussion publique, soit une discussion ouverte, puis soit une discussion qui ne soit pas confiée à des consultants à prix à cher payé qui vont nous arriver avec la solution. Et moi, je mets au défi, ce que j'aime faire, c'est de mettre au défi les gens en disant, bon, mais tout le monde dit Barcelone, c'est super, Berlin, c'est formidable. Puis là, je leur demande, c'est quoi le slogan de Berlin? C'est quoi son branding? C'est quoi celui de Barcelone? Puis personne n'est capable de me le dire. Personne, très rare, même les grands spécialistes, ne savent pas par cœur ça. Sauf New York, parce que ça date d'une autre époque, la grosse pomme et tout ça, là. Mais en général, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une espèce de vibration, il y a une espèce, dans les villes qu'on adore, il y a une espèce d'aura. Et moi, dans les villes que j'adore, en général, quand je m'y trouve, je me rends compte qu'il y a une espèce de chaos à peine chorégraphié, il y a une espèce de désinvolture, il y a une espèce d'arrogance quotidienne dans la rue qui est là. Et ça, là, ça n'est pas les agences de publicité qui peuvent faire ça. Mmh. C'est les gens, c'est la façon dont on vit l'art et la culture.
Donc, ça revient aussi à une de tes préoccupations, Simon, qui est de que ça soit concret et que tout le monde participe à ça. Hein?
Oui.
Frédéric.
Une question avant?
Oui, non, vas-y. Moi, des questions, plein, mais bon.
Ben, je sais pas, j'essaie de voir justement, je vais parler pour ma paroisse, là, j'ai l'impression que ce qu'il faut mettre d'abord et avant tout de l'avant, parce que quand on parle d'une ville de création, tout ça, souvent on essaie de trouver justement les grands porte-étendards de cette création-là, et ça nous fait... et là, c'est ce que j'aime d'ailleurs de la première section, je crois, du livre, si je me rappelle, là, on parle un peu justement d'industrie culturelle, produits culturels et tout ça. Et puis, c'est bien déjà de commencer par ça, parce que si ça n'avait pas été fait, ça aurait été... la question n'aurait pas cessé de se poser. Et justement, les grands, disons, grands créateurs, les mots nous viennent souvent à la bouche, les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours des industries, finalement, de la culture. On dit toujours le cirque du soleil. Il vient souvent comme étant une réussite, tout ça. Et puis, il ne faut pas... comme critiquer cette réussite-là. C'est juste que ce qui serait vraiment intéressant, c'est pas de créer un autre Cirque du Soleil, c'est justement de créer quelque chose dont on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et je pense que c'est l'idée du chaos dont tu parles. Donc, une ville intéressante, souvent, est une ville assez, au niveau de la création, assez chaotique. Parce que dans le fond, si on organise dès la barre, si on organise la création sachant où on veut aller, on n'est pas en train de faire de la création. On est en train d'essayer de remplir une case déjà pré-formatée. Et pour ça que je dis que je viens parler pour ma paroisse, c'est-à-dire que comme créateur, je me rends compte que souvent c'est une ville qui est vivante en création, c'est une ville qui est juste, qui a une multitude de propositions. Donc on peut jamais vraiment réussir à compter combien que de propositions artistiques ou combien que de propositions culturelles. Et la santé, je pense, d'une ville de culture, c'est une ville justement qui est diversifiée. Mais pas nécessairement qui est diversifiée dans le sens qu'on parle plein de langues. Ça veut juste dire que l'offre culturelle est pas juste incommensurable, mais elle est aussi impossible à mesurer d'une proposition à l'autre. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est ce qui se passe un peu déjà ici, mais ça pourrait tellement être mieux. On pourrait tellement plus, en tant justement les politiciens, pourraient tellement plus se mouiller envers ce qui est la création. Parce que dans le fond, on aime bien aller agiter nos drapeaux canadiens en tournée, là, comme... comme un grand artiste, mais on met pas toujours l'argent à dire ben pour que ça arrive ces grands artistes là il faut mettre de l'argent dans les studios dans les théâtres dans la création finalement.
Faut mettre un peu de sous dans la création plus risquée. Là, on le fait, mais est-ce qu'on le fait assez? C'est quand même une bonne question. Quand les villes cherchent à se donner cette signature culturelle, on peut croire que ça a tendance à encourager surtout quelque chose comme la culture de masse. Puis au-delà de cette question de branding, il faut garder à l'esprit, je pense, que la culture féconde, la culture d'audace est une culture qui, au départ, n'a pas de finalité précise. Quand une troupe de théâtre déjà établie dit on a besoin de 20 000, 50 000, 70 000 $ pour monter un prochain spectacle et qu'on sait qu'il y a déjà des attentes, des diffuseurs intéressés, bien c'est sans doute plus facile de le faire et c'est important de le faire. Mais je ne veux surtout pas ramener la discussion au jeu, mais peut-être pendant quelques secondes, vous dire pour ceux qui sont moins familiers avec ces choses-là, à quel point ça peut être précieux d'avoir un petit coup de pouce, comme j'en ai eu un moi il y a quelques années, une petite bourse d'écriture pour écrire un recueil de poésie. Bon, quelques milliers de dollars qui m'ont permis de consacrer 4 mois à ça et d'avancer dans ma création, quelque chose que j'aurais absolument pas pu faire. J'ai des jeunes enfants, c'était pas possible, il faut que je boucle les fins de mois, tout ça. Et pour raconter un peu l'histoire, pour vous dire comment tout peut s'enchaîner quand on encourage quelque chose qui est un projet artistique qui au départ n'apparaît pas nécessairement intéressant pour la société en termes économique, puis même semble promis à une diffusion modeste, un recueil de poésie, ça se vend au mieux à quelques centaines d'exemplaires. Au lancement de ce dit recueil, je fais une petite lecture accompagnée de musique, comme j'aime le faire. Il y a dans la salle un type qui travaille au disque audiogramme qui dit hey, c'est intéressant ta manière de marier poésie, musique, tout ça. Je garde le contact avec lui. De fil en aiguille, on arrive à développer le projet de faire un disque autour de ce mariage poésie-musique. Ça a donné un disque que j'ai lancé fin 2006, Carnet d'apesanteur, qui a eu, étant donné sa nature anticommerciale, je dirais vraiment une belle circulation, une belle réception. Ce qui m'a permis, sur la base d'un bon dossier de presse et tout, d'obtenir encore une bourse pour en faire un deuxième que je suis en train de faire ces jours-ci et surtout ces nuits-ci, excusez les cernes. Je referme là, la parenthèse au jeu, mais je veux juste dire que c'est important parfois de rappeler peut-être aux gens, parce que c'est des choses qu'on entend, bon, peut-être pas ici, vous êtes des gens qui fréquentent les librairies et tout, mais je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés devant ça, devant le soutien à une culture vraiment risquée, alors qu'on dit qu'il y a tellement de trous dans le budget de l'État partout. Je tiens à dire que ça peut être précieux.
Mm-hmm. J'aimerais ça faire un commentaire sur cette question-là parce que ce que je trouve intéressant ces jours-ci, par exemple dans le milieu de la culture, en fait, il y a 10 ans, c'était encore plus clair, mais encore aujourd'hui, c'est que, par exemple, dans le milieu culturel, le mot « culture » est suspect. Le mot qui n'est pas suspect, c'est le mot « création ». Et moi, je trouve que le mot création est probablement beaucoup plus suspect que le mot culture. C'est-à-dire, puis étant au Conseil des arts depuis plusieurs années, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant. Il faut qu'on s'intéresse aux mots, mais il faut surtout qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les faits. Et par exemple, ici, au Québec, au Canada, contrairement à l'Espagne, par exemple, contrairement à Barcelone, par exemple, on a un système de bourses qui est donné directement aux artistes. En Espagne, il n'y a pas de bourses qui sont données directement aux artistes. Si tu ne travailles pas pour une compagnie, tu n'auras pas une bourse. Nous, on a ce système-là. Et moi, je trouve que c'est un système qui est extrêmement important parce que c'est pas évident que la création est toujours le fait des institutions. La création, moi, je pense, c'est souvent le fait des individus. Et l'idée de pouvoir jouer avec des bourses, c'est une façon d'être capable de repérer puis de soutenir telle ou telle chose à condition qu'on y arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important qu'on parle de culture, de création, d'art. Dans le livre, ce que j'essaie beaucoup d'amener, c'est d'essayer de voir toujours que ces choses-là sont toujours en train de se déplacer, sont toujours pas sont par définition difficiles à saisir, et qu'il faut qu'on s'intéresse constamment à la valeur de ce qui est fait. Il y a un chapitre dans le livre qui dit que tout ne se vaut pas. En disant il y a des choses qui ont vraiment une très grande valeur et que cette valeur-là, elle vient à la fois de ce que l'artiste essaie de faire, mais aussi de sa rencontre avec du vrai monde. Et j'essaie de dire dans le livre, par exemple, que c'est pas parce que quelque chose est aimé par très peu de gens que c'est forcément très bon. C'est pas parce que c'est aimé par plein de monde que c'est forcément pourri, par exemple. C'est-à-dire que l'idée que, bon, je fais du très bon théâtre d'avant-garde parce qu'il n'y a personne dans ma salle, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça se peut qu'il n'y ait personne dans ta salle. Ça se peut qu'il n'y ait personne dans ta salle parce que ce que tu fais n'est pas trop intéressant ou parce que tu t'es pas intéressé à attirer des gens dans ta salle. Et moi, je pense, j'ai essayé un peu de déconstruire ça en disant méfions-nous des mots, méfions-nous des gens qui s'habillent d'un discours puis disent bon, ben, nous, on est pour ça, là-là. Puis donc, parce qu'on est pour ça, on a raison. Moi, je pense qu'il faut qu'on regarde comment les choses se passent. Puis la dernière chose que je veux dire sur les villes, c'est que Montréal, puis plus que jamais, même au moment où j'ai écrit le livre, puis ça fait pas longtemps, c'était au mois de juillet, Montréal était encore dans un état où on pouvait dire c'est une ville mal aimée qui va pas très bien. Aujourd'hui, c'est un vrai désastre, Montréal, soyons clairs. Mais dans le livre, il y a une partie du livre où j'explique que quand on regarde toutes les villes qui ont joué un rôle culturel dans l'histoire, on se rend compte que ces villes-là ont un certain nombre de caractéristiques. Le chaos, le fait que ce soit des villes qui sont ouvertes, souvent des ports de mer, souvent des ports comme Montréal où il y a plein d'immigration, il y a plein de monde qui rentre, des villes où il reste encore un vieux fond de richesse, c'est le cas de Montréal, des villes qui sont pas aimées par les autres villes, qui sont contestées, qui vivent des crises, qui sont en situation d'instabilité, qui sont en situation Et je pense que Montréal est plus que jamais une ville comme ça. Et on ne l'a pas souhaité, mais c'est comme ça. Et je pense que ce qui va se passer à Montréal dans les prochaines années sur le plan artistique et culturel risque d'être extrêmement passionnant. Et lundi matin, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails parce qu'à René Aumirois, j'ai dit « Moi, je souhaite qu'on fête le 375e anniversaire de Montréal, mais pas du tout comme Québec. Tout le monde pense que c'est un grand succès à Québec. Mais si un an après le 375e anniversaire, ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'inviter Kiss, puis après avoir invité McCartney, puis après, ça sera pas ça. Montréal doit être capable de montrer quelque chose d'extrêmement original, quelque chose d'extrêmement risqué, quelque chose d'extrêmement bizarre, mais surtout quelque chose d'extrêmement partagé par ses citoyens. Et je pense que les créateurs à Montréal ont intérêt aujourd'hui plus que jamais de se rapprocher du vrai monde, pas de s'isoler. Et ça, c'est vraiment important. Je tiens vraiment à ça comme... C'est vraiment un message important du livre. Et là-dessus, j'aimerais savoir ton commentaire.
Je pose des questions.
Oui. Mais en fait, je dirais aussi, justement, Frédéric, si tu me permets, on pourrait peut-être faire un parallèle, par exemple, avec le jazz. Vous savez, aux États-Unis, avant que le jazz apparaisse, ou alors qu'il était en train de naître, il y avait des bons, des académiciens, des gens très sérieux, des compositeurs qui voulaient créer une musique typiquement américaine, mais basée sur des modèles européens. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait dans les champs de coton? À la Nouvelle-Orléans, dans les bars malfamés, dans les bars justement, naissait une musique que personne a vu venir, le blues, le jazz. Et je veux dire, chaos pour chaos, là, je veux dire, celui qui vivait des esclaves afro-américains était pas mal non plus, là. Donc, juste pour faire un petit bout de chemin là-dessus, alors Frédéric, je te cède le micro.
Il y a beaucoup d'idées qui voguent, là, qui sont... Un petit brouillard, là, d'idées.
Du brouillard.
Oui, c'est intéressant. C'est un beau brouillard, mais j'essaie de me faire une idée là-dedans. Oui, rapprocher les artistes. Oui, rapprocher les artistes. Je crois que c'est aux artistes de faire ça. C'est ça la meilleure façon de faire. Moi, je vais faire une parenthèse au jeu, moi aussi. Dans le fond, ça, j'ai le droit parce que.
T'as le droit.
On parle du livre de Simon. Donc, j'ai le droit de faire mon jeu. J'ai fondé la compagnie La Deuxième Porte à Gauche qui n'est pas. Que pour mettre ça clair, c'est pas ma compagnie, ce sont pas mes œuvres, c'est une espèce, Simon a eu un beau mot tantôt, c'est une plateforme pour faire des projets. Donc on est plusieurs artistes autour de ça, et notre idée c'était justement de trouver des façons, des projets qui allaient pas nécessairement dire rapprocher l'art des citoyens, mais c'est quoi, comment on peut faire des projets qui vont questionner la relation qu'on a envers les spectateurs, envers les gens qui ne sont pas des artistes. Et dans le fond, le moteur de création est devenu cette question-là du rapport au spectateur. Et cette télé de faire des... On a fait des projets in situ, mais on a fait aussi des projets où l'art où très interactif, c'est-à-dire avec un spectacle, mais que tout était un choix de réponse pour le spectateur ou des trucs pour un seul spectateur. Ou peut-être plein de choses qui nous ont vraiment... ou des projets qu'on a créés complètement dans la rue. On a répété tout le long du projet dans la rue avec les gens en essayant d'avoir, de toujours attraper quelqu'un pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en pense pour nous faire... Plutôt que d'engager un répétiteur, on a pris des bénévoles sur place. Et toutes sortes de ce genre de projet-là, pas pour amener l'art quelque part, parce qu'on amène, c'est difficile d'amener l'art quelque part, mais c'était beaucoup plus pour amener les artistes à se positionner puis se questionner sur quel rapport ils ont envers les spectateurs. Parce que c'est pas un commentaire éditorial de dire qu'on devrait amener l'art plus proche des gens, c'est vraiment plus de dire... Chaque artiste va avoir une réponse différente de ce que c'est que d'être en contact avec sa ville puis avec son milieu, et c'est de faire sortir ça. Parce que, et ça c'est bien parce que j'ai réussi à faire le lien vers l'idée que je voulais amener, c'était que faut faire toujours attention, Simon disait un peu ça tantôt, faire attention à quelqu'un qui voudrait protéger qu'est-ce que c'est que l'art, ou qui voudrait être capable de dire, avoir une idée d'un art qui serait plus en avance parce qu'il n'y a personne qui vient le voir, tout ça, mais ça englobe un peu ça. Il faut faire toujours attention de protéger. Il faut faire une espèce de scission entre qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qui est les artistes. Et je pense qu'on peut essayer de pas protéger l'art, mais on peut essayer de protéger les artistes. Pour moi, c'est deux choses différentes, parce que protéger l'art, c'est toujours impossible. Puis en plus, c'est quelque chose qui peut justement nous forcer à essayer de définir qu'est-ce que c'est. C'est toujours très, très dangereux. Mais tant qu'il y aura des artistes, bon, je pense que ça va relativement bien.
Dans le livre de Simon, d'ailleurs, Simon faisait la comparaison avec le milieu de la santé en disant que le milieu de la santé a la responsabilité de soigner, mais aussi de prévenir. Peut-être que le milieu culturel a aussi la responsabilité de soigner, mais de prévenir ou d'apporter une nouvelle maladie, une nouvelle piqûre qui est celle de la culture. Tristan, par rapport à ça, est-ce que tu voulais réagir?
Peut-être simplement pour dire que j'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure en ouverture. Mmh. Bon, moi, j'ai eu la piqûre par elle, entre autres. Bon, je viens d'une famille où il y avait des livres partout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la piqûre dans leur milieu familial. Et puis, il faut trouver le moyen d'attirer leur attention sur les bouquins, sur les œuvres, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une idée maîtresse dans nos propos de ce soir, c'est celle du développement de public. Il faut... Quand il n'y a personne dans une salle de spectacle pour aller voir un truc un peu plus risqué, c'est peut-être parce que c'est plus ou moins pertinent comme proposition, c'est peut-être aussi parce que l'information n'a pas circulé jusqu'au public. Et bon, là, il y aurait peut-être éventuellement une culpabilité des médias là-dedans, on comprend. Mais il y a peut-être aussi simplement le fait que on n'a pas formé un public. Bon, c'est une notion un peu étrange, celle de former un public. On ne forme pas un public comme on forme un médecin ou un avocat, mais... On peut donner la piqûre, pour reprendre l'expression, et je pense qu'il faut trouver davantage de moyens de le faire. Je pense que c'est en Allemagne, hein, où il y a un système assez efficace pour permettre aux étudiants d'aller au théâtre à très, très, très peu de frais. Ici, j'ai l'impression que ces initiatives-là sont plutôt par institution. Au TNM, par exemple, il y a le forfait 15-25 qui est... Assez populaire. Des gens entre 15 et 25 ans peuvent avoir des billets à très, très bon prix. Et je ne sais pas, Simon Brault, est-ce qu'il y a suffisamment d'initiatives du genre?
Peut-être, Simon, parler d'une initiative en Belgique dans ton livre qui est très intéressante.
Ouais. Mais je pense que la réponse, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives du genre. Il peut en avoir plus. Mais la réponse, c'est aussi qu'au moment où on a, par exemple, des politiques de tarifs, il est trop tard. C'est-à-dire que ceux qui vont profiter des tarifs, c'est ceux qui vont déjà avoir eu la piqûre. Puis pour moi, quand je dis « il est trop tard », c'est oui, il faut le faire, mais il faut absolument qu'à l'échelle des garderies, à l'échelle des écoles primaires, à l'échelle des écoles secondaires, à l'école, il y ait quelque chose qui fait que là, on a la piqûre. Parce qu'il est trop tard parce que finalement, tu finis toujours par aller chercher ceux qui ont déjà un intérêt, mais qui avaient des difficultés économiques à satisfaire leur désir. Puis là-dessus, je pense que... je reviens à la question identitaire. Parce que dans le livre, moi, j'ai dit que j'ai pas écrit un livre qui parle de l'indépendance du Québec, l'identité, Par contre, il y a une chose que je dis dans le livre qui est extrêmement importante pour le Québec, c'est que je pense que au Québec, la culture, ce qu'on fait en culture, c'est extrêmement lié à la survie de la langue française. Et je pense que si on n'investit pas dans la culture rapidement et massivement, si on ne fait pas des vaccinations, j'espère, mieux organisées que celles qu'on vit présentement,
là là.
Si on ne fait pas une vaccination à large échelle au niveau culturel, là le français est vraiment en danger. Et là, les valeurs qu'on essaie de développer au Québec sont véritablement en danger. Mm. Parce que les politiques culturelles qu'on a développées il y a 50 ans au Québec, on va fêter les 50e du ministère de la Culture l'année prochaine, ces politiques-là ont été développées en 10 ans. On va réussir à donner à la culture un rôle de contribution à l'identité et à la préservation de la langue française en investissant fondamentalement sur l'offre culturelle. Donc, on va financer des artistes, des institutions, on va faire des concerts, on va tout faire ça et ça va aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, ça ne va pas. Il faut qu'on ait des stratégies qui soient vraiment à la fois, c'est vrai, soutenir les artistes, à la fois soutenir la création, mais que de l'autre côté, on travaille sur développer la demande, développer la participation culturelle. Et ça, c'est pas développer nécessairement un public pour telle ou telle chose, mais c'est développer un intérêt, un éveil,
une
sensibilité à l'art, à la culture, à la création. Et si on ne fait pas ça, moi, je pense que là, dans 50 ans, le Québec va être vraiment dans un grand trouble. Et je pense pas qu'actuellement, on ne peut pas faire une loi, on ne peut pas gérer la culture, par exemple, comme la langue. On peut pas faire une loi 101 de la culture. C'est impossible. Parce que notre rapport à la culture peut pas être un rapport de contrainte. Notre rapport à la culture, il y a rien à faire. C'est fondamentalement une question émotive, émotionnelle. C'est fondamentalement une question d'amour. C'est fondamentalement une question d'inclinaison. C'est fondamentalement une question... Puis dans le livre, j'explique à un moment donné que quand un individu a un rapport à la culture, il ne se pose pas la question « Est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est subventionné, pas subventionné? Est-ce que c'est de la grande culture, de la mauvaise culture, de la populaire, de masse, ou etc.? » Je rencontre des gens extrêmement savants, précieux, snobs, qui aiment des affaires extrêmement populaires. Parce qu'ils l'ont aimé. Et cette question-là, donc, de développer ce rapport-là, cette ouverture-là, de transmettre les codes pour décoder les propositions artistiques. Pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est une question d'urgence nationale au Québec.
Je suis sûr que depuis une heure, vous êtes extrêmement inspiré par ce que dit nos panélistes. Comme le veut l'expression consacrée, la parole est à vous. Alors, ceux qui ont des questions, des commentaires sur ce que nos invités nous ont dit depuis maintenant une heure, vous êtes vraiment libre et je vous invite fortement à le faire, à venir poser vos questions, dire vos commentaires et le dire, s'il vous plaît, au micro pour être certain que le cyberespace ainsi que nous tous ici ce soir puissent bien vous entendre. Alors, parce que sinon, je sais que nos panélistes ont encore plein de choses à dire, moi j'ai encore des questions à leur poser, mais j'aimerais vraiment que des gens de l'auditoire puissent aussi nous faire leurs commentaires. Donc, la parole est à vous. Soyez pas gênés, on est entre nous. À nous et le cyberespace. Oui, alors, allez, faire comme dans les assemblées syndicales, mettez-vous un derrière l'autre.
J'ai pas besoin de dire de quel parti je suis. C'était tout à fait juste de dire qu'en l'an 2000, les gouvernements qui se sont succédés ont tout à coup découvert la culture. Mais savez-vous, je pense que c'est plutôt... Enfin, en même temps, un objectif de faire à Montréal, par exemple, la place de...
Des festivals.
Des festivals et la place de... La grande place qu'ils veulent faire. C'est du béton. Les gros contrats de béton, hein, qu'il y a eu et qu'il va avoir encore pour propager une forme de culture avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Et ma question était un peu parce qu'on parlait de produits culturels. Est-ce qu'on est pour ou contre le produit culturel et quels produits aimons-nous?
Alors, qui veut répondre à cela?
Ben,
Simon.
Peut-être juste sur la question du béton. La culture, depuis que l'humanité existe, C'est toujours exprimé notamment dans les cavernes, dans le béton, dans la pierre. Effectivement, si on avait été là au moment où beaucoup des cathédrales devant lesquelles on s'est bobie aujourd'hui ont été construites, si on avait vécu au moment où ça s'est passé, si on avait été des citoyens dans ces villes-là, on aurait peut-être été vraiment opposé à la construction de certaines cathédrales. Parce que ça s'est fait après des conquêtes, dans des guerres, par l'esclavage, etc., etc. Et aujourd'hui, bon, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Je suis pas en train de dire que la place des festivals est une cathédrale. Je veux pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tôt ou tard, l'activité culturelle nous entraîne, nous oblige, nous encourage à construire, à édifier des choses plus ou moins réussies. La question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces espaces-là. Et pour moi, par exemple, la place des festivals, j'étais prête à admettre qu'après des années d'occupation du centre-ville par des festivals de jazz et tout ça, qu'il était peut-être temps qu'on organise ça un peu plus, qu'il y ait une marque un peu plus permanente dans la ville. Mais je l'ai dit souvent dans les médias et je vais continuer de le dire. Pour moi, ça ne change rien. Je dis qu'on ait fait ça, tant mieux, youpi. Mais si ce que ça donne, c'est que le festival de jazz ou le festival de Juste pour rire est mieux présenté puis plus rentable, ça va être un échec catastrophique. Mm-hmm. Ce qu'il faut, c'est que ces places-là soient occupées. Mm-hmm. Et je sais, pour avoir vu la gang des Journées de la culture, leur gang, plein de monde qui ont essayé de l'occuper, je sais que maintenant, ça prend des moyens. Et ce qui me fait, moi, peur présentement, c'est que les gens qui soient capables de se servir de cette place-là ne soit que les gens qui ont d'énormes moyens financiers pour que ce soit spectaculaire, parce que c'est conçu à une échelle qui, justement, demande des produits culturels. Alors que quand tu as un petit bout de rue animé, ça prend pas d'argent, puis ça a l'air merveilleux avec rien. Et là, on a un enjeu comme société. On a laissé construire ça. On a applaudi la construction de ça. Mais si on n'installe pas des circulations culturelles là qui soient vraiment intéressantes, puis surtout si on donne pas aux créateurs d'aujourd'hui les moyens d'aller l'occuper, pas à des vedettes américaines qui veulent vendre des disques, là, mais vraiment à nos créateurs, ça sera un échec. Donc, c'est une bataille qu'on va mener, mais on est organisé pour l'amener.
Mm-hmm. Et peut-être un peu comme à l'image de la place du centre Georges Pompidou à Paris, peut-être que c'est les badauds, dans le fond, qui vont donner une âme plus qu'Alain Simard ou les gens du festival Juste pour rire.
Si vous permettez, madame.
Oui. Après, ce madame, sera pas bien commentaire.
Parlant de Paris, moi, il y a un type d'événement que j'espère voir prendre de plus en plus d'ampleur à Montréal, c'est par exemple, la fête de la musique. Je sais qu'il y a eu une première édition. Pour ceux qui ont connu Paris durant la journée de la fête de la musique, c'est une fête à ciel ouvert. La plupart des rues sont bloquées, ou en tout cas, la plupart des places sont dédiées à des spectacles. Il y en a qui sont à grand déploiement, assez grand déploiement, mais il y en a. Il y a tout un éventail de types de spectacles, et ça va jusqu'au spectacle de rue, un contrebassiste avec un chanteur et tout ça. Ça, je trouve ça exceptionnel comme moment de communion avec la musique. Et puis là, on est loin de ce qui est en train de devenir une place des festivals dont la scène coûte une fortune et n'est accessible qu'à quelques productions.
Oui.
Oui. Je m'appelle Gila Sroka et je suis l'éditrice de Tribune Juive. C'est une tribune mise à la disposition des créateurs au Québec par une juive. J'ai fait le pari de la langue française en venant ici à 33 ans, alors que ma communauté est à 80% anglophone. C'est vrai que si j'avais choisi d'être anglophone, j'aurais eu un autre destin. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je crois fermement que la langue française, c'est la colonne vertébrale de la culture québécoise, et je crois que de temps en temps, on la maltraite. Si par exemple, je prends le cas du théâtre, où, quand je vais très souvent au théâtre, je vois que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de métèques, pas beaucoup de gens issus de l'immigration, ça me brise le cœur. La danse, ce n'est pas un problème. Le cinéma au festival de Lausic, c'est multiethnique. C'est vraiment un des festivals qui attire le plus les communautés culturelles. Alors je me demande dans quelle mesure les créateurs du Québec devraient faire un peu plus d'efforts pour aller chercher les 192 ethnies qui existent à Montréal. Peut-être pas les 192, mais peut-être au moins 25, parmi elles, les latines au moins, les plus proches de la langue française, pour les intégrer à la culture québécoise en général, et plus précisément la culture montréalaise. Alors vous voyez là, 2 mois avant les élections municipales, j'ai sorti à ce numéro spécial qui s'appelle « Montréal, la ville que nous voulons ».
Et avant le prix Médicis.
Et bien aussi, évidemment, une interview exclusive avec Daniela Ferrière. à qui je consacre un livre d'ailleurs, bientôt. Et ce que je veux dire, c'est que j'invite les gens à lire ce qu'a écrit là. Il y a 17 intellectuels qui ont répondu à cette question. Et c'est dommage que les maires ou ceux qui se présentaient ne se sont pas donné l'effort de le lire. Parce qu'alors là, ils auraient peut-être compris que la ville de Montréal, ce n'est pas juste qu'une affaire d'autoroute et de magouille et de tout ça. Parce que ça, effectivement, il faut le dénoncer. Et je trouve qu'à la mairie, on ne fait pas beaucoup de choses pour la culture. Mmh. Et ça, c'est regrettable. Alors, les autres ministères, j'en sais rien. Mais je voudrais terminer sur une note très personnelle. Et vivant ici 33 ans... Je n'ai jamais eu de subvention. Il a fallu que je travaille à temps plein dans l'enseignement pour financer ce magazine qui me tient à cœur. Quand je demande au ministère de la Culture une subvention, on m'envoie au ministère des Communautés culturelles. J'ai dit, mais je suis désolée, je suis Montréalaise, je suis québécoise. Et quand je vais au ministère des Communautés culturelles, on me dit, ah ben non, c'est trop culturel. Alors, moi, je me suis tannée de me balader d'un ministère à l'autre. Et je trouve ça regrettable qu'il n'existe pas un organisme qui subventionnerait les choses de qualité. Voilà, merci.
Alors, pour répondre à la question par rapport à l'intégration ou le dialogue qui peut s'établir entre les communautés culturelles et les artistes, la culture, Frédéric, Simon, Tristan?
Mais juste dire là-dessus que c'est un enjeu extrêmement important à Montréal, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, ce qui me fascine, c'est que c'est très, très, très souvent les gens de toutes les communautés qui commencent maintenant, beaucoup de leaders comme vous, qui se lèvent et qui disent « Nous, on veut en faire partie. » Et d'abord, donc ça, c'est puissant. C'est pas quelque chose qui vient, c'est pas quelque chose qui est demandé par un gouvernement, qui est commandé par qui que ce soit. C'est quelque chose qui s'exprime dans la ville. Et je pense que, bon, dans le livre, moi, j'argumente beaucoup. Puis c'est pas juste, bon, un livre que j'écris comme ça, je vous assure. Demain matin, la semaine prochaine, je ne lâcherai pas dans les prochaines années. Je dis qu'il faut qu'on ait un immense projet de société pour augmenter la participation culturelle, une participation culturelle qui est inclusive, et je pense que ça veut dire mettre des moyens, et je pense que ça va faire en sorte que les propositions culturelles qui sont faites vont évoluer, parce que le problème dans lequel on est maintenant, bon, en théâtre, ailleurs et tout ça, c'est que tout le monde fonctionne dans des silos qui sont, bon, les silos disciplinaires, des subventions, des conseils des arts et tout ça, et on a beaucoup, beaucoup de difficultés à être capable de dépasser ça, parce que par définition, en tout cas dans les arts, c'est toujours ceux qui sont là, qui sont en train de juger sur ce qui est proposé et bien. Et là, on est dans une situation où on a subi depuis 20 ans une transformation fondamentale de la population montréalaise, comme la plupart des grandes villes du monde. Et là, il va falloir qu'on fasse un effort pour qu'on mette autour de la table des gens qui ne pouvaient pas être là. Et que ces gens-là commencent à dire « ouais, ça c'est bon, ça c'est moins bon ». Et si on ne le fait pas, on va se retrouver, je dis dans le livre, dans 10 ou 15 ans, dans une situation où ça va être de moins en moins légitime que l'État intervienne pour protéger ce qu'il y a de plus fragile, parce que la grande majorité des gens vont dire « ben c'est peut-être fragile, mais c'est pas pour nous ».
Le non-public aura gagné.
Oui, va avoir gagné, c'est ça.
J'aimerais ça, je vais être un peu... D'habitude, je suis assez cool, mais là, je vais être un petit peu tyrannique. Je vais demander, parce que je veux vraiment que les gens puissent s'exprimer, donc...
Oui, monsieur, allez-y. Oui, mon nom, c'est Bismarck Pilacres. Je suis membre d'une communauté culturelle, pour que j'ai la culture, en principe. Et je vais suivre un peu dans la... Je vais prendre un peu la direction qu'est la madame qui a passé tantôt. Je pense que les immigrants, comme tels, ils viennent avec un bagage culturel très important, culturel, artistique. Mais on vit dans une sorte de solitude dans laquelle, d'un côté, le peuple francophone, oui, il permet
les tricotés serrés.
Oui, c'est ça. Donc, en 30 secondes, je vais dire mon expérience lorsque je suis arrivé ici. Moi, je suis illustrateur, sculpteur, peintre, musicien, de tout, parce que je viens de l'Amérique latine dans laquelle il n'y a pas une segmentation très claire. On dit le créateur, c'est tout. Le créateur, est-ce qu'il est capable de dessiner, ouais, tant mieux. S'il est capable de faire la poésie, tant mieux. Donc, ça nous a permis de un peu d'exploser, d'aller beaucoup plus loin que l'espace restreint de chaque secteur de la création, théâtre, tout ça. Ça nous a permis de faire des choses. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une sorte de segmentation qui est très, très, très fermée entre chaque catégorie d'expression artistique. Puis, ce que je vois, c'est qu'il y a une dépendance très grande envers la subvention, envers un peu les institutions qui donnent l'argent. Moi, je dis, est-ce qu'il y a-t-il des initiatives qui sont un peu, des ateliers, des individus qui sont capables de dire, bon, dimanche, je me lance à la rue, puis je fais une expérience artistique. Il y a ce genre de choses ici? Non, il n'y a pas. Peut-être que c'est dans ce sens qu'il faudrait aller un peu développer, de dire, écoutez, il y a 3-4 artistes, écoute, on va prendre un peu les parcs, tel endroit, puis on fait une expérience. Donc, de cette façon, les gens se réapproprient du processus artistique. Mais je pense que c'est important, c'est pas seulement le produit final qui s'approprie, sinon le processus de travail. Donc, dans ce sens, il faudrait développer des initiatives pour aller vers ça, que les gens soient capables de faire des choses. Puis à ce moment, ce sont eux qui vont devenir le public acteur, finalement. C'est ça qu'il faut créer, un public acteur.
D'accord.
Merci.
Merci. Peut-être que ça, je vais demander à Frédéric peut-être de réagir un peu à...
Moi, je suis spécialiste de
à
la question.
À ce désir de décloisonnement.
La participation. J'aime beaucoup le mot participation qui vient souvent, la participation culturelle. Et dans participation culturelle, ce que j'aime bien, c'est que si je compare à développement de public, quand on dit développement de public, ça veut souvent dire vendre des billets. Parce que moi, comme artiste, je veux être pas plus riche, mais je veux pouvoir faire ce que je... Et dans la participation culturelle, c'est beaucoup plus large. Et ce qui est stressant pour le professionnel de la culture, c'est que dans la participation, ça veut dire qu'on n'est plus les maîtres. Parce qu'on doit écouter. On doit écouter, on doit partager. Ça veut dire partager le pouvoir, ça veut dire partager les opinions. Et ça veut dire se faire brasser, finalement, un peu, dans nos convictions. Ce que vous disiez, ici, il y a quelque chose qui je pense que je vais devoir que je publie mon mémoire parce que je parle justement de ça, puis je pense que c'est intéressant. C'est cette espèce d'idée qu'on a travaillé très fort comme créateur dans d'autres, disons, une autre époque, à travailler la professionnalisation. C'est-à-dire une espèce de reconnaissance que l'artiste est un professionnel et qu'il mérite de gagner un salaire. Et ça a finalement, c'est devenu un peu une espèce de statut qu'être un artiste. On a le statut d'artiste, on a donc droit à des subventions puisqu'on est professionnel. Et donc les subventions mènent à d'autres subventions. Et ça finit par créer, ce que ça crée, c'est que ça crée justement une espèce de grosse différenciation entre le statut du professionnel et le statut de l'amateur, qui est très triste finalement, qui fait qu'il y a un qui est artiste et l'autre il l'est pas, et ça devrait jamais exister. Et je crois que ça existe pas seulement à cause des formulaires de subvention, ça existe à cause un peu de l'histoire des pratiques artistiques ici, qu'on a voulu mettre ça comme étant sérieux et dire que c'est pas juste des gens qui font ça justement le dimanche, ils font ça, ils en font une vie. Mais voici ce que vous décrivez, c'est un peu l'effet pervers de cette espèce de... Et je pense qu'on est rendu à une époque où, OK, c'est correct, on comprend que l'artiste, c'est quelqu'un de sérieux. Maintenant, il peut
se dialoguer.
Oui, il peut dialoguer puis se décoincer un peu puis commencer à inviter des gens avec lui.
Vaste programme. Merci, Frédéric. Madame.
Oui, bonjour. Hélène Ayotte, je suis de la Commission scolaire de Montréal. Alors, je vais rebondir sur l'idée de participation culturelle et applaudir à cette idée d'aller à l'encontre des jeunes, finalement, parce que c'est une façon de former ce... comme on disait tout à l'heure, de ce public, mais de les faire participer complètement. Et étant donné que nous avons une population qui est extrêmement diversifiée, le problème que Madame soulevait tout à l'heure peut se régler justement avec le temps, puisque si on intervient tôt, et puis intervenir tôt, si vous intervenez à 10 ans, 10 ans plus tard, c'est le même matin, hein, c'est très, 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 très rapide, ça se fait très, très vite. Alors, je trouve, et en plus, ce que ça fait, vous parliez de professionnalisme et puis d'amateur, bon, en fait, En faisant en sorte que les jeunes, les élèves participent, eh bien, automatiquement, ils créent eux-mêmes à leur façon, mais ils attrapent cette piqûre dont nous parlions tout à l'heure. Alors, je voulais vraiment vous dire à quel point je suis contente d'entendre ce plaidoyer-là. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non, ça va? Alors, d'autres commentaires? Monsieur?
Jabert Lutfi, je suis artiste-peintre. Deux points. Vous avez consacré un chapitre à l'idée de « tout ne se vaut pas ».
Oui.
Moi, je suis artiste-peintre. Je peux vous dire que du point de vue de l'artiste, tout se vaut. Tout ce qu'on fait se vaut.
Oui.
Du point de vue de l'artiste, celui qui crée, tout est bon. Le problème, c'est quand ça passe la rampe de la culture. Quand le travail artistique, ça va, on est tous heureux. Quiconque expérimente l'art dans son intimité, c'est très bien. Tout se vaut, effectivement. Mais dès qu'on le met dehors, dès qu'on s'expose au regard des autres, tout le monde veut commenter et on se fait bouffer. J'aime bien que vous faites un plaidoyer pour emmener les gens à participer à l'art et à la culture, mais j'aimerais bien qu'on leur mette cet avertissement-là, qu'on peut se faire bouffer aussi, et que l'art et la culture ne font pas nécessairement bon ménage.
Simon.
Oui, mais en fait, le phénomène que vous soulevez, c'est que... Puis, à un moment donné, dans le livre, j'explique que quand un artiste s'exprime, et quand un être humain s'exprime et fait quelque chose, dit quelque chose, livre un poème, écrit, peint, etc., et donne ce qu'il a de meilleur, cette personne-là va toujours mériter le respect. Cette personne-là mérite d'être respectée parce que c'est pour moi l'essentiel de notre condition d'humain, c'est de faire ça. Évidemment, quand on parle du rôle que l'État doit jouer dans la culture, par exemple en subventionnant l'art et certains artistes ou certaines œuvres d'art, là, évidemment, il faut qu'il y ait des distinctions parce que tout n'est pas de valeur égale, tout n'est pas réalisé. Et dans le livre, il y a un chapitre où je parle d'une étude qui a été faite aux États-Unis, une petite étude assez simple, mais qui parle de la participation culturelle et ce que j'ai aimé de cette étude-là, c'est qu'elle est faite à partir du point de vue non pas des produits culturels, justement, non pas de ce qui est fait, mais du point de vue des émotions et de ce que ressentent les gens qui vivent, qui participent à la culture. Et cette étude-là montrait que plus notre rapport à la culture est un rapport de création, plus on crée ou on interprète parce qu'on est dans une chorale, ou après ça on lit ou on regarde, etc., plus on est proche de la création, plus on la vit, plus l'expérience est extraordinaire, peu importe le résultat que ça a. Et moi, je pense que il faut qu'on comprenne ça. La participation culturelle, c'est pas de vendre des billets. La participation culturelle, c'est pas le développement des publics. La participation culturelle, c'est pas d'avoir 500 000 personnes au centre-ville de Montréal qui regardent le festival de jazz. C'est pas ça. L'idée de la participation culturelle, c'est de mettre les êtres humains en rapport avec une activité libre qui est l'art, de les mettre dans un rapport profond, intime, actif. Et bien sûr, c'est différent, cette question de participation culturelle, que d'évaluer la contribution de chaque artiste, justement, à la construction de la culture. Là. Et puis là, vous avez raison, on entre là dans la critique, dans l'évaluation.
C'est politique.
C'est politique culturelle.
Oui, tout à fait.
C'est politique.
Ou c'est politique et culturelle.
Et culturelle, ouais, ou c'est culturellement politique ou politiquement culturel, je ne sais pas.
Oui, Tristan?
J'ai simplement le souci que des idées comme celle-là ne nous amènent pas à banaliser, par exemple, la critique. Critique littéraire,
merci,
critique
Tristan.
En art visuel. Non, mais je trouve important de cultiver cette idée-là parce que c'est peut-être un peu moins admis ici qu'en France, par exemple. Le fait que la critique, une critique saine, articulée, soit absolument indissociable d'un milieu culturel sain. Alors, je voudrais simplement souligner ça. C'est l'idée que la critique soit essentielle à des rouages culturels sains, ça me semble un peu moins admis que dans plusieurs pays d'Europe où c'est peut-être, ça remonte un peu plus loin, les traditions critiques. Et puis, je voudrais simplement, avant de passer le micro, dire que le risque de se faire bouffer quand on montre son travail, il n'est pas si grave que ça. On ne va pas perdre un doigt. On n'en meurt pas d'une critique.
Quand on commence, oui.
Oui, il faut savoir vivre avec ça. Moi, je pense que le risque de se faire bouffer, ça fait partie du geste de présenter une œuvre d'art au public. Et il faut se dire que la critique soit honnête et qu'elle soit intelligente. Ça, moi, c'est ma seule exigence. Mais qu'elle soit sévère, moi, j'ai rien contre ça.
Juste une chose.
Simon, rapidement, parce qu'on a eu d'autres...
Bon, comme directeur d'école, je dois dire que la chose qu'on essaie d'apprendre le plus aux étudiants à l'école, même quand ils arrivent à l'École nationale, c'est de faire la distinction entre le sujet et l'objet. Puis le sujet, c'est vous. Et vous avez droit d'être respecté. L'objet, c'est ce que vous avez créé. Et ce que vous avez créé, il faut que vous-même, comme sujet, vous acceptiez qu'on discute de ça. Et c'est encore plus difficile pour les danseurs et les acteurs parce que quand on discute de l'objet, c'est souvent leur corps, leur voix et tout ça. Mais si on n'apprend pas ça, là, c'est vrai que non seulement on ne peut pas être un grand artiste, mais on a de la difficulté à vivre en société. Donc ça fait partie de ce qu'il faut qu'on fasse dans l'éducation. Et juste dire un mot sur la critique. Là aussi, on dit culture, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on pourrait avoir un long débat sur qu'est-ce que ça veut dire critique. Parce qu'on a aussi ici beaucoup une critique du spectacle. Une critique spectaculaire qui a beaucoup dévalorisé la critique encore plus que ce que les artistes ont dit sur la critique.
Merci. Parce que d'autres personnes en arrière de vous, très rapidement.
Très rapidement. J'ai le fantasme qu'en complément des Journées de la culture, qu'on rajoute un festival du perron ou du balcon, où les gens, on demande aux gens de sortir, se mettre sur leur perron et sur leur balcon et de faire quelque chose.
Merci.
Je voudrais juste conclure sur une note critique pour dire que si vous ne connaissez pas encore le travail de Jabbar Lutfi, il faut le découvrir.
Oui. Merci.
L'objet.
Oui, l'objet.
Bonjour, mon nom est Patricia Perez. Je suis très, très intéressée à cette discussion, évidemment, étant artiste multidisciplinaire et aussi travaillant beaucoup depuis presque toute ma vie en médiation avec des milieux de vie différents et des cultures et des langues différentes, parce que ça m'a amené à voyager partout et tout ça. Mais il y a des mots clés qui retiennent mon intérêt et dont je crois que c'est pertinent de peut-être souligner ces mots-là. Et c'est, premièrement, ces mots de récupération. Je trouve que l'histoire du Québec, qui est assez jeune comme histoire, est une histoire de récupération et des jongleries dont je vois des exemples en tant qu'immigrante seule, comment ils jonglent avec la langue française et comment, en parallèle, dans mon travail, je vois les jeunes d'aujourd'hui jongler avec les mots et avec la technologie, comment tout ça prend un rythme, un élan, un souffle. Dès là, l'air, ça circule, ça devient une vitalité. Et donc, comment le mot création est super important, parce que le mot création, en fait, c'est un peu comme ça prend de tout pour faire un monde. Donc, c'est important de récupérer aussi des modes, des gens qui ont le savoir-faire de l'art populaire, d'habiter les espaces, de caresser les bétons. Et donc, Dieu sait combien il y a des espaces à Montréal qui attendent des caresses, qui attendent la couleur, qui attendent des épices, des textures, et de cette toile culturelle qui est Montréal et qui est d'ailleurs, j'ai très peu de mauvaises expériences en tant qu'artiste, en tant qu'immigrante, en tant que femme, parce que probablement il y a 22 ans, j'ai rentré et j'ai accouché des deux filles pour le Québec. Alors, c'était une époque où on souriait aux immigrantes qui voulaient voir une famille. Aujourd'hui, peut-être ça a changé quand on veut des enfants, donc il y a plus de monde à soutenir. Mais cet grand embrassement de toutes les cultures, c'est pas nouveau pour la culture québécoise. C'est juste que la culture québécoise, elle était timide et tout petite embryonnaire à l'époque de la Nouvelle-France. Mais même à cette époque-là, ils s'organisaient pour que toutes les cultures qui habitaient cette terre produisent des spectacles qui accueillaient les gens, habitaient les espaces publics. Mais pour revenir à des mots-clés, il y a des choses. La vitalité dépend de notre, nous tous, êtres humains de cette ville, qui porte une devise extraordinaire comme image de marketing, je me souviens. Et je me souviens, pour moi, j'ai appris, c'est vraiment comme une jonglerie avec les mots au Québec. En arrivant, j'ai posé la question il y a 22 ans, qu'est-ce que ça veut dire, je me souviens? Les artistes me l'ont expliqué, les intellectuels me l'ont expliqué, plein de gens.
Et personne ne vous donnait la même explication.
Mais mon vécu m'a fait comprendre que je me souviens quand l'État a pris la démarche de soutenir la diversité culturelle et donner des reconnaissances aux artistes venant d'ailleurs. Je me souviens quand plein de choses. Et aujourd'hui, je trouve que Montréal a une vitalité, mais les passerelles entre les arts et les citoyens, les différents groupes de citoyens, il faut en construire plus de passerelles. Et ça, c'est ça qui va faire, comme vous dites, tout spontanément Montréal un lieu où il faut bien vivre et récupérer l'art populaire. Parfait. Les conteurs, les traditions. Ne pas oublier que vous avez dans votre propre culture traditionnelle tout ce qu'il faut pour faire un monde. Et là, ça bouge.
Parfait. Donc, je vous remercie. Je vais devoir vous interrompre. Je vais juste demander, peut-être suite à ce plaidoyer passionné, si nos trois panélistes ont quelque chose à rajouter pour, dans le fond, conclure un peu cette discussion qui malheureusement s'achève.
essayer d'être aussi passionné que notre dernière intervenante.
Pendant que je pense, ouais, c'est ça, je vais essayer d'être, bon, ça va être moins lyrique, je sais pas, j'ai comme plein de notes tout croche, puis j'arrive pas toujours à me comprendre. OK, on a beaucoup dit mot participation. Dans C, il y a le C de citoyen qui est très important, et puis il y a un nœud, là. Le citoyen, pourquoi le citoyen et l'art, ça va vraiment ensemble, c'est-à-dire que un citoyen, c'est quelqu'un qui est qui participe, et qui participe de façon responsable. Et quand on parle de démocratie, on parle beaucoup de démocratiser l'art. L'art peut pas être démocratisé tant que les gens se responsabilisent pas face à ce qu'ils ont à faire avec l'art, et en même temps, tant que les gens vont pas participer. Mais pour participer à la démocratie ou pour participer à la culture, il faut être responsable de ses actes. Et souvent, dans la démocratie qu'on connaît, un peu comment qu'elle est appliquée ou comment qu'elle est connue ici, qui est une espèce de démocratie... Là, je me rappelle plus qui a sorti ce terme-là, la démocratie radicale. C'est-à-dire une démocratie où tout se vaut, justement. C'est-à-dire que toutes les opinions se valent, et n'importe qui a jamais regardé une peinture peut dire que son avis vaut bien l'avis d'un connaisseur. Et on est pris avec cette façon-là. Et la seule façon d'aborder cette question-là de participation à la culture, c'est de prendre pour acquis qu'on est dans une époque où ça se fait pas si facilement. Alors qu'on a peut-être un peu perverti ce que c'est la démocratie. C'est devenu une espèce de façon d'aplanir les choses, alors que la démocratie devrait être quelque chose d'actif, quelque chose d'une responsabilité. Donc, la démocratie n'existe pas, tout comme la culture n'existe pas tant que les gens n'en sont pas impliqués et responsables. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant de mettre le mot démocratie, parce qu'on a le mot démocratie. Ben moi, j'ai beaucoup développé là-dessus, mais c'est que l'idée, c'est qu'on a plusieurs définitions qui ne sont pas toujours... qui veulent pas dire la même chose. Et je pense que le livre de Simon, il fait un plaidoyer pour amener l'art à l'école, mais je pense qu'il faudrait que ça soit presque écrit en plus gros, ça. Parce que c'est vraiment la seule et unique façon d'arriver quelque part. Parce que, comme je dis, si on veut responsabiliser les gens, il faut que ça commence très tôt. Et former un citoyen, c'est pas former quelqu'un qui sait les maths et qui sait pas faire de fautes. Former un citoyen, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et former quelqu'un qui participe à un bien-être collectif, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je pense que la culture, je vais pas développer là-dessus, ça va être trop long, mais la culture est quelque chose qui rend les gens...
Ça commence à devenir un bon politicien,
qui rend les gens... je pense que la culture, c'est un vecteur de civilisation, c'est un vecteur de citoyenneté. Et ça, il faudrait même pas se poser la question si on enseigne les arts. On devrait enseigner les arts dès la maternelle, puis plus jamais se poser cette question-là, parce que ça peut juste nous servir à ouvrir les esprits. Il n'y a rien Frédéric, qui me freine à dire ça.
Alors, avant, dans cette démocratie, je serai dictateur. Je vais demander à Simon de conclure pour sa part.
Ben, je veux juste faire écho à ce que Patricia disait. Je pense que moi je suis extrêmement optimiste. Je sais que c'est bizarre de défendre cette cause-là puis d'être optimiste en voyant l'état des choses, mais moi, je suis extrêmement optimiste parce que je regarde ma ville, je regarde les gens que je rencontre, je regarde tous les jours les jeunes à l'École nationale de théâtre, je regarde qui sont plutôt privilégiés dans un environnement privilégié, puis je regarde comment on rebondit, comment on discute les questions, et je trouve qu'on a effectivement tout ce qu'il faut pour être capable de se développer, pour être capable de... On vit dans un haut lieu de civilisation, à mon avis, parce qu'on vit dans un haut lieu de création et de culture. Et je pense qu'on se bat pour s'assurer que... En fait, on se bat pour des valeurs. Et moi, je suis absolument convaincu que on est capable de faire des choix comme société. Je crois encore qu'on vit en démocratie, qu'on est capable de faire des choix, mais ces choix-là doivent se faire, puis doivent se faire rapidement, parce que si on ne les fait pas, c'est la barbarie qui est à nos portes. Puis la barbarie est pas nécessairement la culture commerciale, parce qu'il y a des choses bonnes, encore une fois, dans la culture commerciale. La barbarie, c'est le jour où on voit la culture comme étant quelque chose qui est dans un seul format, qui doit être uniquement consommé, qui est imposé et qui s'achète et qui se vend et qui nous permet d'affirmer qui on est, au lieu de voir la culture comme étant quelque chose d'extrêmement vivant, au lieu de s'assurer que chaque être humain puisse être convaincu qu'il peut participer au développement de la culture. Et le jour où on est convaincu qu'on fait partie de cette culture-là et qu'on peut la développer, on existe, on est des citoyens, on est libre, on est vivant. Mais le jour où on n'est que spectateur ou consommateur, le jour où, si je le dis dans le livre, où la seule façon de participer à la culture, c'est d'acheter un produit culturel, à mon avis, c'est la
ça
fin.
Ça va mal. Oui. Merci Simon. Tristan?
Je vais conclure en quelques mots seulement, en remerciant Madame Patricia, c'est ça? Oui. En vous remerciant de m'avoir aidé à me souvenir. Je vais partir d'ici ce soir en disant je me souviens que le souffle vital, je l'ai au creux de moi, que chacun l'a au creux de soi. Merci.
Merci, Tristan. Vous savez, l'animateur a tous les droits. Alors moi, j'ai décidé que c'est moi qui donnais le mot de la fin en lisant un extrait du livre de Simon que j'ai relu en prévision pour la préparation de ce débat, qui me semble très inspirant. Et c'est avec cette parole-là de Simon que je veux vous laisser ce soir. Alors, il nous dit « Il y a encore beaucoup à faire pour que la culture soit considérée comme une dimension incontournable de nos trajectoires personnelles et de l'organisation de nos collectivités, mais cette compréhension progresse. On le sent, on le constate, mais surtout, on peut contribuer à accélérer les choses. On peut agir localement pour changer le monde, y compris sur le front culturel. » Alors, citoyens, à vos armes, allez-y. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.